VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, John Lindon et Morgane Diriac en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du vendredi 2 septembre 2016. Au sommaire ce soir.
Au Gabon, les troubles post-électoraux gagnent les villes de province. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial sur place.
Attaque contre un poste de douane à Marcoyé, au Burkina Faso. 2 personnes ont été abattues.
Ne manquez pas notre chronique quotidienne sur la présidentielle américaine.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Bonsoir à tous. Au Gabon, les troubles post-électoraux gagnent les villes de province, notamment dans le nord, proche du Cameroun, où la situation est particulièrement tendue depuis l'annonce mercredi de la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba. Morgan, on se rend tout de suite à Libreville au Gabon pour retrouver Idriss Fall, un autre envoyé spécial sur place.
Les violences ont continué dans les quartiers de Iaï, les violences ont continué dans la périphérie de Bouzoum, de Libreville, particulièrement au PK 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à PK 12. Les violences ont continué à Nkembo et les violences aussi sont restées pareilles à Lambaréné, dans le centre du pays, à Oyem, dans le nord du Gabon, et à Franceville, la ville rebelle, qui est la capitale économique. Et les 26 leaders de l'opposition qui sont, je ne dirais pas résidents surveillés, en état de siège au quartier général de Jamping, le sont toujours. J'ai pu leur parler, ils ont donné un bilan de 17 personnes tuées, alors que les autorités, notamment le ministre de l'Intérieur, M. Pacom Boubeya, a parlé seulement de 3 morts. La ville est vide, les gens se battent pour avoir du pain, il y a de longues files devant les boulangeries, il n'y a pas de taxi, Internet est coupé depuis mercredi et apparemment ça vient remis, si je m'en remets au moins avant 3 heures. Donc c'est ça l'état global, le pays est encore très, 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 très tendu.
Et quand vous parlez de violence, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi exactement il s'agit?
En fait, c'est des jeunes qui érigent des barricades, qui brûlent des bâtiments publics, l'Assemblée nationale, le siège du quotidien national qui s'appelle l'Union, pour ce qui est de Libreville, des voitures incendiées, des magasins éventrés et des gens sont venus se servir avec leurs brouettes, des hôtels attaqués à Lambaréné. Donc, globalement, c'est une violence qu'on a rarement vue. Les autorités accusent des assaillants parce qu'ils se disent que pour des manifestations politiques, on ne devrait pas piller, brûler, attaquer des domiciles privés. Mais c'est ça l'état actuel des choses actuellement au Gabon.
Idriss Fall, envoyé spécial de VOA Afrique à Libreville au Gabon.
Au Burkina Faso, une nouvelle attaque a eu lieu dans le nord. On parle de 2 morts, Bagassi Koura.
2 hommes ont été tués dans cette attaque perpétrée dans la nuit de jeudi à vendredi par un groupe d'individus non encore identifiés. La cible, c'était un poste de douane de Marcoy dans la province de Loudalan, à la frontière avec le Mali et le Niger. Selon Mahamadou Mahaman Maïga, le maire de la commune de Marcoy, les assaillants ont emporté une moto de la douane et des renforts ont été déployés dans la ville. Le nord du Burkina Faso, frontière du Mali et du Niger, a connu plusieurs attaques ces derniers mois. En janvier 2015, un couple d'Australiens avait été enlevé dans la zone. Madame Elliott avait été libérée quelques semaines plus tard au Niger, mais son mari, Dr Elliott, est toujours entre les mains de ses ravisseurs, probablement des groupes djihadistes du Nord Mali, dont un avait revendiqué le rapt. Cet enlèvement du couple Elliott avait eu lieu le 15 janvier, le jour même de l'attentat terroriste de Ouagadougou qui avait fait une 30 morts.
Les forces de sécurité maliennes sont elles aussi la cible d'attaques, notamment dans le centre du pays. Hier, des hommes armés qui scandaient Allah Akbar ont mené un raid à Beleni-Tegni dans la région de Ségou. Il n'y a pas eu de victimes, mais les assaillants ont emporté une moto. Kassim Traoré.
Le poste de gendarmerie de Béléniténi, à quelques kilomètres de Sang, région de Ségou, pour ne pas dire au centre du Mali, a été attaqué par trois assaillants bien armés. Ils étaient sur de grosses motos. Après avoir traversé le fleuve du côté du Massina, ils se sont dirigés vers le premier poste de la gendarmerie. Ils ont brûlé deux motos et emporté une. C'est après que le renfort de l'armée malienne est arrivé sur place pour prendre position et rassurer la population. 24 heures avant cette attaque, il y a eu une autre contre les FAMA dans le cercle de Douanza. Les forces de sécurité ont lancé des opérations de ratissage et interpellé plusieurs suspects. D'après des sources sécuritaires, ce sont des attaques simultanées qui visent à chasser les forces de sécurité du Mali de la brousse. Ces mêmes sources affirment aussi qu'il est très difficile d'arrêter ces assaillants parce qu'ils se dissimulent dans la population. Ce vendredi 2 septembre, le poste de Mendoli dans l'arrondissement de Ouo, cercle de Banyangara, toujours dans la région de Mopti, six hommes armés ont attaqué le poste de gendarmerie de cette localité. Un gendarme a été blessé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, est en République démocratique du Congo à l'occasion du dialogue politique. Après avoir rencontré son homologue, Joseph Kabila, il a échangé avec une délégation du Rassemblement, conduite par l'opposant Étienne Tshisekedi. Selon Martin Fayoulou, membre du Rassemblement qui a participé à la rencontre, la déclaration n'a fait que remettre son mémo au président Denis Sassou Nguesso. Il est au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ce que nous faisons aujourd'hui, et nous l'avons dit au président Sassou, nous lui avons remis un mémo. C'est notre mémo qu'on a envoyé à Mme Zuma avec nos termes de référence pour un dialogue franc, inclusif et sincère. Donc nous attendons que le président Sassou Nguesso fasse son travail pour que nous puissions rencontrer les amis. Et aujourd'hui, il y a deux camps. Les camps de Béatrice et Kanchachi, plus les camps des rassemblements avec les gens qui partagent le même ou la même vision que nous. La réunion aujourd'hui, nous voulons un dialogue selon la résolution 2277. Et ce n'est pas ce dialogue que M. Kodjo préside. M. Kodjo préside le dialogue de M. Kabila.
Qu'est-ce que le président Sassou Nguesso attend de vous? Qu'est-ce qu'il vous a demandé?
Il ne nous propose rien. Il nous a écoutés. C'est un président d'une république sœur et qui est venu nous entendre et voir ce qu'il peut faire. Maintenant, c'est à lui, il consulte. Il a dit qu'il a vu M. Kabila, il nous a vus, il va voir les noces apostoliques, et puis il va tirer les conclusions.
Les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU sont au Soudan du Sud. Ils sont arrivés à Djouba, la capitale, pour tenter de convaincre le président Salva Kiir d'accepter le déploiement d'une force régionale sous peine de sanctions.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et dans le reste du monde, le président islam Karimov, à la tête de l'Ouzbékistan depuis plus d'un quart de siècle, est décédé aujourd'hui des suites d'une hémorragie cérébrale. C'est ce qu'a annoncé dans la soirée la télévision publique ouzbèque.
Neuf membres des forces de sécurité irakiennes ont été tués par des djihadistes du groupe État islamique lors de combats au nord de Bagdad, ont rapporté vendredi des responsables de sécurité. Les forces irakiennes sont active plus au nord en vue de l'opération militaire pour la reconquête du dernier grand bastion de l'État islamique en Irak, Mossoul. Ce dernier peut être repris aux djihadistes d'ici la fin de l'année 2016, a estimé mardi le général américain Joel Fotel, chef du commandement militaire américain au Moyen-Orient.
La Russie et les États-Unis pourraient parvenir bientôt à un accord sur une coopération en Syrie. C'est ce qu'a estimé le président russe Vladimir Poutine. Nous avançons petit à petit dans la bonne direction et je n'exclus pas qu'on puisse se mettre d'accord bientôt sur quelque chose et l'annoncer à la communauté internationale, a déclaré M. Poutine.
La justice française a renforcé le contrôle des femmes de retour des Syrie après avoir un temps sous-estimé leur dangerosité, a déclaré le procureur de Paris François Molin, chargé des enquêtes sur les attentats djihadistes. Le magistrat s'inquiète dans un entretien au quotidien Le Monde, vendredi, du retour des djihadistes français partis rejoindre l'organisation État islamique qui a revendiqué notamment les attentats de novembre 2015 à Paris qui ont fait 130 morts et l'attaque de Nice en juillet qui, elle, a fait 86 morts.
Deux attentats ont secoué vendredi le nord-ouest du Pakistan où au moins 14 personnes ont été tuées par un kamikaze dans un tribunal et un garde abattu lors d'une attaque contre un quartier chrétien de Peshawar, des abords de Peshawar. L'assaillant a tiré pour forcer l'entrée du tribunal puis lancer des grenades avant de déclencher sa ceinture d'explosifs lourde de près de 8 kilos au milieu de la foule.
Et puis l'ancien étudiant blanc de l'université américaine de Stanford qui avait été condamné à 6 mois de prison pour avoir violé en janvier 2015 une jeune femme inconsciente sur le campus de son université a quitté la prison.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco avec Michel Joseph.
La filiale camerounaise du groupe France Télécom est visée par une plainte déposée au Cameroun par la Fédération camerounaise des consommateurs auprès du régulateur local des télécommunications pour publicité mensongère sur l'offre de la 4G. Officiellement, au Cameroun, aucun opérateur ne dispose de fréquence 4G. L'Agence de régulation des télécommunications a assuré qu'elle allait adresser une demande d'explication à l'opérateur incriminé. Au Nigeria, Aero Contractors et First Nation Airlines ont décidé de suspendre leur vol. Les deux compagnies aériennes ont pris cette décision stratégique qui devrait leur permettre de trouver des solutions pouvant leur permettre d'être plus rentables. Le Nigeria fait face à une récession du fait de la chute des cours du pétrole. Selon SBM Intelligence, plus de 4 millions de personnes ont perdu leur emploi depuis 2014. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis en août ont déçu les attentes. L'économie américaine a généré 150 000 nouvelles embauches, alors que les analystes tablaient sur 180 000 après les 275 000 du mois de juillet. Le taux de chômage demeure à 4,9%, au même niveau depuis 3 mois.
Une musique qui ne trompe pas, Bagassi Koura est dans ce studio, c'est l'heure du sport. Bonjour Bagassi.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
Voilà, la dernière journée des qualifications de la CAN 2017 démarre ce vendredi.
Voilà, merci John. Avec une affiche Afrique du Sud Mauritanie qui est en cours, un but partout entre les deux équipes. Et puis il y a aussi le Soudan qui joue contre le pays organisateur de la prochaine CAN, le Gabon. Cette dernière journée dévoilera surtout l'identité des 6 derniers participants à la phase finale au Gabon en janvier prochain. Outre le pays hôte, l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Maroc, le Sénégal et le Zimbabwe sont déjà assurés de disputer la prochaine phase finale. Le premier de chacun des 13 groupes se qualifie en compagnie des 2 meilleurs deuxièmes. Parmi les têtes d'affiche du continent, la Côte d'Ivoire, championne en titre et leader du groupe I, et qui n'a pas droit à l'erreur avec ce match contre la Sierra Leone, tout comme le Burkina Faso. Les étalons finalistes en 2013 et en tête de la poule D affrontent dimanche au stade du 4 août de Ouagadougou le Botswana, alors que la Tunisie, deuxième du groupe A, est en danger avant d'accueillir chez elle le Libéria.
Et puis les 3 candidats à la présidentielle de l'UEFA déclarés éligibles par la FIFA.
Oui, il s'agit d'Alexander Severin de la Slovénie, Van Praagh des Pays-Bas et Villar Llona de l'Espagne. Ils ont tous passé avec succès le contrôle d'éligibilité de la Fédération internationale de football. C'est ce qu'a annoncé ce soir l'UEFA. Ce contrôle d'éligibilité a été effectué par la FIFA car celui qui sera élu à la présidence de l'UEFA deviendra automatiquement vice-président de la Fédération internationale de football. John, l'élection de l'UEFA est prévue le 14 septembre à Athènes en Grèce et ses candidats briguent donc la succession de Michel Platini, président de l'UEFA depuis 2007, mais le Français s'est retiré après avoir été suspendu par la justice interne de la FIFA pendant 4 ans de toute activité liée au football.
Et on parle de rugby qui existe bien au Cameroun, Bagassi. 4 candidats à l'organisation de la Coupe du Monde 2023.
Voilà, je suis content que vous ayez fait vos recherches sur le rugby au Cameroun. Et donc, c'est 4 pays candidats. Il s'agit de la France, de l'Italie, de l'Irlande et de l'Afrique du Sud. Et c'est ce qu'a annoncé la Fédération, l'Organisation internationale de rugby. Le pays qui succédera au Japon, hôte de l'édition 2019, sera désigné en novembre 2017.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgan Guiriec et John Lindon en votre compagnie. Place au dossier du jour et nous ouvrons sur le Gabon.
L'ONG Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO, a déploré ce qu'elle appelle l'inaction africaine face à la crise post-électorale dans ce pays, le Gabon. Elle a appelé à l'arrêt immédiat de la violence, de même qu'elle a demandé à l'État gabonais de mettre un terme à l'usage disproportionné de la force et aux privations de liberté des opposants, donc. Timothée Donnan-Maïa joint à Dakar Aboubakri Mbodge, secrétaire général de la RADO.
Nous sommes très préoccupés par l'escalade de la violence depuis la proclamation des résultats du scrutin. Et nous déplorons aussi que jusqu'à présent, qu'il n'y ait pas une initiative sérieuse en matière de diplomatie africaine pour contenir la crise et surtout soutenir le peuple gabonais dans cette situation difficile.
Vous notez l'inaction de l'Union africaine. On remarque également un mutisme au niveau de la région Afrique centrale où se trouve le Gabon. Comment s'expliquent ces attitudes?
Il y a une inaction de la part de la communauté des États de l'Afrique centrale, qui devrait être en premier lieu, au premier chef, dans les missions diplomatiques pour ramener la paix et la sécurité dans le pays.
Le Tchad a connu une situation presque similaire à celle que connaît le Gabon aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour le président en exercice de l'Union africaine, le président Idriss Déby Itno?
Oui, dans tous les cas, il est président en exercice. Il devrait aujourd'hui prendre son bâton de pèlerin et appeler tous les États membres de l'Union africaine pour essayer de trouver une solution de sortie de crise. Si le problème du Gabon n'est pas résolu et que ça s'empire, c'est toute la sous-région qui risque de s'embraser. D'autant plus qu'on connaît également les élections qui se sont déroulées en République du Congo, où il y a eu de fortes contestations, où l'adversaire principal, le général, également est aujourd'hui en prison. Donc c'est une situation fort préoccupante pour l'Afrique, pour la sous-région, et qui connaît également ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo, où nous sommes assis également sur une poudrière.
Aboubakri Mbodge, secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO, joint à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
50 nouvelles plaintes de familles burundaises pour des cas de torture, d'exécution extrajudiciaire et de disparition ont été déposées par un groupe d'avocats auprès de la Cour pénale internationale et auprès du Haut Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Claire Morin-Gibourg a joint l'un de ses avocats, Bernard Minguin.
Nous avions déposé une plainte pour 60 familles, ce qui était déjà un geste très très courageux parce que c'était des personnes qui vivaient au Burundi pour la plupart d'entre elles. Et ici, nous complétons cette plainte avec 50 nouvelles familles qui nous font confiance, et ce, malgré toutes les pressions qui ont été exercées pour que les gens se détournent des avocats des parties civiles.
L'État burundais affirme que les ONG de défense des droits de l'homme sont instrumentalisées par les États occidentaux. Que pouvez-vous répondre à cette allégation?
Je ne suis membre d'aucune ONG. Je ne suis financé par aucune ONG. Je ne suis financé par aucun État. Je fais mon travail d'avocat. Aujourd'hui, ce sont des défenses qui ne sont pas faciles parce que les temps sont durs, les gens sont pauvres. Et comme avocat, j'estime qu'il faut continuer malgré tout le combat pour l'État de droit, pour la justice.
Devant quelle juridiction cette plainte va pouvoir être portée? Est-ce que vous le faites en Belgique? Est-ce que vous le faites devant la CPI? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, le juge naturel de ce genre de crime, c'est le juge au Burundi. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la caractéristique du pouvoir judiciaire burundais, c'est qu'il est instrumentalisé à un point tel que la défense dérangeante, celle que nous portons, n'est plus acceptée. Moi, je suis interdit de séjour. Maître Armel Nyangueré fait l'objet également de poursuites pour complicité de putsch et on a demandé sa radiation. Donc, on assiste aujourd'hui à un processus où on empêche la défense d'agir.
Bernard Minguin, avocat du barreau de Bruxelles et membre du collectif des avocats des victimes burundaises.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Nous partons à présent au Niger, dans la région de Difa. Un projet visant à céder 120 000 hectares de terres agricoles à une société saoudienne suscite bien des controverses. Le bail s'étendrait sur 90 ans. Les élus locaux ont donné leur aval, mais le gouvernement temporise et des organisations de la société civile crient à l'accaparement des terres agricoles. Correspondance d'Abdulrazak Idrissa.
C'est à travers une de ses succursales dénommée Niger Rivers que la société saoudienne Al Hurech veut réaliser ce projet de mise en valeur des terres agricoles et pastorales. Elle est dans un premier temps intéressée par celle du bassin du lac Tchad dans sa partie nigérienne. Le document du projet parle de 120 000 hectares. Et pour cela, elle a obtenu déjà l'aval du conseil régional de Difa. Meirou Malam Ligari en est le président.
Ces 50 000 hectares seront aménagés avec des équipements modernes. Et comme dans le monde entier, quand il y a un projet comme ça d'intérêt général, ça va susciter le déplacement des villages. Quand il y a un projet d'intérêt général, il y a quelques hameaux qui peuvent être déplacés. Nous apportons la richesse pour que cette population ne soit plus pauvre de ses potentialités. Parce qu'aujourd'hui, elle est pauvre de ses potentialités, qu'elle n'exploite pas. Mais elle verra, ça va être un Eldorado, même pas la région de Difa, tous les Nigériens iront travailler là-bas pour ça.
Pour l'instant, selon des sources, le gouvernement a demandé aux deux parties de sursoir à une quelconque signature pour matérialiser le projet. Un collectif d'organisations de la société civile demande aux autorités nigériennes d'aller plus loin en faisant simplement arrêter le processus. Moussa Tiangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, une de ces organisations.
Bien sûr, on parle de 10 000 emplois qui seront créés, mais c'est aussi quelque part, ça c'est les emplois d'ouvriers agricoles, quoi. Mais de l'autre côté, ça va impacter les activités que les gens font, à savoir donc l'élevage qui est une des activités phares de la région. Parce que si on laisse la possibilité à des grandes compagnies de venir acheter ou louer des terres chez nous, eh bien ça sera fini de la petite production familiale, de l'agro-industrie qui va s'installer et ce serait quand même une perspective plutôt sombre.
Le collectif d'organisation de la société civile se dit convaincu d'un retour très proche de cette société pour tenter d'acquérir ces terres agricoles, pas seulement dans le lit du lac Tchad, mais également autour du fleuve Niger, d'où d'ailleurs le nom du projet Niger Rivers. Il appelle alors à une grande vigilance contre l'accaparement des terres agricoles par des investisseurs étrangers. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump poursuit son offensive de charme en direction des minorités. Il visitera ce week-end une église de Detroit à majorité noire. En tête dans les sondages, la démocrate Hillary Clinton continue de faire face à la controverse liée à ses activités du temps où elle était secrétaire d'État. Le point avec vous, Timothée Donogmaï.
Selon l'équipe de campagne de Donald Trump, le milliardaire présentera les grandes lignes de sa politique en faveur des minorités et des nécessiteux ce week-end. Le voyage de Trump à Détroit, ville à 83% noire, intervient après les critiques des Africains-Américains qui l'accusent de généralisation abusive à l'endroit de leur communauté. Le candidat républicain qui s'adresse habituellement à un public majoritairement blanc tentera de persuader les Noirs de regarder de plus près son projet de société. Il faut dire que les Africains-Américains, qui constituent entre 12 et 13% de la population des États-Unis, votent en majorité pour le Parti démocrate. Barack Obama, premier président noir du pays, a remporté 95% et 93% de leurs suffrages aux deux dernières élections présidentielles. Selon Donald Trump, cette loyauté des Noirs est payée en monnaie de singe par les politiciens démocrates. Citant récemment les maux auxquels sont confrontés de nombreux Noirs, notamment la pauvreté et le fort taux de criminalité, Trump les a exhortés à voter pour lui. « Qu'avez-vous à perdre au juste ?» leur avait-il lancé.
Les voix des minorités font l'objet d'une âpre lutte cette année entre les deux principaux candidats à la présidentielle. Donald Trump et Hillary Clinton s'accusent mutuellement de racisme. Malgré son avance dans les sondages, l'ancienne secrétaire d'État continue d'avoir des soucis en rapport avec ses activités à la tête de la diplomatie américaine, Timothée.
Dernier développement de cette saga, la décision du département d'État de rendre public des détails du calendrier de Mme Clinton du temps où elle était secrétaire d'État. Après avoir récemment procédé à une analyse partielle de ce calendrier, l'agence Associated Press avait conclu que certaines personnalités ayant rencontré Hillary Clinton au département d'État ont aussi fait des dons à la Fondation Clinton. Associated Press, qui n'a rien détecté d'illégal, estime néanmoins que cette situation soulève des questions de conflit d'intérêts. Le camp de Mme Clinton a rejeté cette conclusion, soutenant de son côté que l'analyse de Associated Press est biaisée parce qu'elle n'a pas pris en compte toutes les réunions de Mme Clinton, ses appels téléphoniques, de même que ses rencontres avec des responsables gouvernementaux américains ou des dignitaires étrangers. Cette controverse pourrait être relancée par les nouveaux documents que s'apprête à publier le département d'État concernant l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton.
Et Timothée Donangmaï, merci.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Sans regarder en arrière, ferai la pluie et le beau temps pour t'aimer comme avant. Tous ces moments inavoués, perdus à tout jamais. Mais je ne connais pas l'amertume. Je t'attends.
Elysio ne me laisse pas pour le plaisir des oreilles de nos auditeurs et pour celles de Robertine, Michel et Morgane. C'est la fin de cette édition. Michel Joseph a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Volarich à la console. Présentation Morgane Guiriec et John Linden.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. 1 700 000. Et on maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo Kinshasa, Nostalgie FM Ouagadougou, 99.8 FM Korogo Côte d'Ivoire et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.